Le journal de François Comte.
Madame, Monsieur, bonjour. Le marché de Noël se prépare à animer les rues de Saint-Ursanne. La manifestation se déroulera samedi et dimanche dans la cité médiévale. La formule sur deux week-ends a ainsi été abandonnée. Sénateurs et députés retrouvent le chemin du Palais fédéral. La session d'hiver démarre aujourd'hui sous la coupole. Le budget 2025 de la Confédération, qui prévoit de nombreuses coupes, figure au menu. En volleyball, le VFM se situe au-dessus de la barre après le premier tour du championnat de Liga. Le volleyball Franche-Montagne pointe à la 7e place au classement. Le premier bilan est satisfaisant. Météo, les nuages se feront de plus en plus nombreux au fil des heures cet après-midi. Des averses sont également attendues et vont se généraliser en soirée. Il fera entre 9 et 11 degrés maximum cet après-midi. Le marché de Noël de Saint-Ursanne fait son retour dans sa formule traditionnelle. La 26e édition de la manifestation se déroulera samedi et dimanche dans la cité médiévale et plus sur deux week-ends comme l'an dernier. 120 artisans seront au rendez-vous pour présenter leurs produits et réalisations. Différentes animations seront également proposées aux visiteurs comme une parade des enfants ou encore des concerts à la collégiale. La présidente du comité d'organisation explique pourquoi il a été décidé de revenir à un seul week-end de fête, Bernadette.
Le monde était réparti sur les deux week-ends, du coup c'était peut-être un petit peu moins une ambiance magique. Et puis aussi les artisans n'étaient pas sûrs de choisir le bon week-end, ils avaient un peu peur de tomber en fonction de la météo, peut-être sur un week-end un peu plus calme. Et puis c'est ça qui nous a décidé à repartir sur un week-end pour reprendre cette ambiance peut-être plus concentrée de visite et puis amener peut-être cette nouvelle magie qu'on avait les autres années.
Et puis aussi, particularité cette année, c'est les projections sur le pont Saint-Jean. Voilà, ça, vous pensez que ça va aussi un petit peu donner de l'émulation autour de ce marché de Noël, attirer du monde?
Je pense aussi, ouais, que c'est une réalisation de la commune. Et puis, je pense que du moment que ça a été inauguré il y a peu de temps, ça peut nous donner aussi une certaine visibilité. Et puis, c'est l'occasion que les gens viennent voir ces illuminations et en plus, en même temps, viennent faire la visite du marché de Noël.
Des propos recueillis par Alexandre Rosset. Le 26e marché de Noël de Saint-Ursanne se déroulera donc samedi de 11h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Dernière séance de l'année pour les élus prévôtois. Le conseil de ville de Moutiers se réunit ce soir pour un ordre du jour évidemment dédié aux chiffres avec le budget 2025 de la commune, Olivier Zano.
Parler de finances à Moutiers a bien souvent été chose délicate, mais l'air devrait être plus respirable ce soir à la sociétale. Les autorités tablent en effet sur un budget bénéficiaire à hauteur de quelque 24 000 francs. Autant dire que l'on frise l'équilibre, c'est le grand point positif. Le premier découvert au bilan, enregistré fin 2019, a été totalement compensé le 31 décembre dernier. La ville compte aujourd'hui avec une fortune de 300 000 francs. Pas de quoi fanfaronner, il faudra rester prudent. Les prévisions économiques ne sont pas rose. Et puis il y a quand même beaucoup de questions sur l'impact qu'aura le transfert de Moutiers dans le Jura sur les finances communales. Vous l'aurez compris, les mesures d'économie édictées ces dernières années seront maintenues, mais les autorités espèrent pouvoir desserrer les treintes progressivement. Tout le monde cherche encore des pistes d'amélioration pour un meilleur roulement financier. Parmi les idées des élus, la vente du réseau électrique de la ville. Un rapport avait été commandé suite à une motion du centre pour connaître les avantages et désavantages. Ce rapport sera présenté ce soir. Également, sans entrer dans le détail, le maintien du réseau en main communale reste la piste privilégiée, même si la vente pourrait potentiellement rapporter 15 à 30 millions de francs à la ville.
L'arnaque aux faux policiers vise notamment les personnes âgées. Le phénomène touche également la région. Janine Favre, 92 ans, a été victime de ce type d'arnaque à son domicile de Saint-Imier mardi dernier. Deux personnes se faisant passer pour de faux policiers lui ont fait perdre toutes ses économies. La victime a été profondément bouleversée. La perte financière qu'elle a subie représente également la fin de ses projets pour elle ainsi que pour ses enfants et petits-enfants. Estelle Herman retrace le déroulement de cette arnaque.
Mardi passé, vers 19h, Janine Favre reçoit un appel.
On m'a averti que c'est la police qui me téléphone et que c'est ma carte de crédit qui est en danger parce que des personnes pouvaient trafiquer avec ma carte de crédit et que ces personnes-là étaient au poste de police en train d'être interviewées et qu'il fallait pouvoir les condamner. Si j'abandonnais le téléphone, je pouvais téléphoner à ma famille, mais ce n'était pas possible et je devais garder le téléphone.
Le soi-disant policier lui explique que sa carte de crédit n'est désormais plus valable. Il lui donne un nouveau code qu'elle doit noter sur une feuille. Mais pour le changer, il lui faut l'ancien. Jeannine Favre le lui donne. Ce n'est toutefois que la première partie de l'arnaque, car il la prévient qu'une policière se rend à son domicile et qu'elle attend devant la porte.
Une dame s'est présentée en habit comme les policiers, mais pas tout à fait quand même, habit foncé, et puis elle avait un smartphone qu'elle a ouvert et présenté devant elle, où il y avait la croix suisse, c'était marqué « police ». Donc c'était la preuve pour moi qu'elle était vraiment de la police. J'ai cru en elle. Je l'ai laissée entrer et elle m'a dit que quelqu'un avait pu pénétrer chez moi et m'avoir volé de l'argent qu'il fallait maintenant contrôler.
Dans son bureau, l'Imérienne gardait quelques centaines de francs de réserve. Elle vérifie toutes les deux que tout y est. La policière lui demande ensuite s'il y a encore d'autres cachettes.
J'ai dit oui, j'ai de l'argent de réserve pour ma vieillesse dans un coffre. Alors il faut vérifier, qu'elle m'a dit. Vraiment, je ne comprends pas. Je suis allée chercher la clé de ce coffre, que seule connaissait l'endroit où je la mettais, ma fille, parce que c'était tout marqué dans mon testament. Et j'ai ouvert le coffre et elle s'est mise à regarder ce qu'il y avait dans le coffre et en sortir des billets de banque. Il y avait aussi des pièces d'or. On a sorti ça, elle a tout mis dans une enveloppe, elle a ramassé les pièces d'or, elle a mis dans une enveloppe, puis elle m'a dit maintenant on se reverra au poste de police parce que c'est là que les choses vont se terminer et on vous rendra tout ça.
Là commence une longue attente pour Jeannine Favre, toujours au téléphone avec l'un des faux policiers. Il continue à lui parler et à lui demander de rester en ligne. Il lui promet qu'une voiture arrivera bientôt la chercher.
C'est vers 8h du soir qu'il m'a dit « ils vont arriver vers 8h20 » parce que j'insistais pour savoir « mais à quelle heure ils arrivent ?» Puis là, je commençais à douter. Et je disais, je voudrais téléphoner à ma fille. Ah non, non, c'est pas possible, vous devez rester parce qu'on a besoin d'un suivi avec vous. Un peu avant 8h20, j'ai compris qu'il ne viendrait pas.
Jeannine Favre n'est pas la seule à s'être fait duper mardi passé à Saint-Imier. La police cantonale bernoise confirme un autre cas. Une enquête est en cours.
Et un témoignage sur l'arnaque aux faux policiers qui a été réalisé par Estelle Herman. C'est parti pour 3 semaines de débats aux Chambres fédérales. La session d'hiver débute aujourd'hui, se termine le 20 décembre prochain. La matinale recevait l'un de nos 4 élus à Berne ce matin pour parler des enjeux de la session. Place ainsi à la conseillère aux États socialistes Mathilde Crevoisy-Crelier. La session sera l'occasion d'aborder de nombreux sujets importants. Le budget 2025 de la Confédération sera mis sur la table avec notamment de nombreuses coupes prévues dans différents secteurs. Mathilde Crevoisy-Crelier.
Alors l'enjeu, c'est évidemment cette situation de la Confédération, cette situation financière qui est dite compliquée. Et là, les avis divergent entre la gauche et la droite. Mais on a un budget qui est déficitaire de 700 millions. Et ce déficit est dû notamment aux hausses conséquentes, massives, qui ont été consenties dans les budgets de l'armée. Et donc, ça engendre des coupes dans d'autres domaines très importants, comme l'éducation, l'innovation, l'agriculture également. Et c'est ça qu'on va essayer de corriger pendant cette session.
Il y aurait un autre dossier également qui a passablement fait réagir ces dernières semaines en Suisse, c'est la suppression de nombreux offices de poste, enfin en tout cas la poste qui envisage de le faire. Et il y a une motion justement qui traitera notamment de cette thématique.
Oui, tout à fait, c'est une motion de la commission qui demande de réviser la loi sur la poste pour définir mieux le service universel, la mission qui est confiée à la poste, et dans l'intervalle de geler toutes les fermetures d'offices de poste qui ont été annoncées.
Mathilde Crevoisy-Crelier était l'invitée de Loïc Georgie dans la matinale. Vous retrouvez l'entretien complet en vidéo sur rfj.ch. C'est la première fois qu'un géant des matières premières est jugé pour corruption devant le tribunal pénal fédéral. Le procès de Trafigura s'ouvre aujourd'hui à Bellinzon. L'entreprise de négoce est poursuivie aux côtés de 3 personnes physiques en lien avec ses activités dans le secteur pétrolier en Angola. Des pots de vin auraient été versés à un agent public pour favoriser Trafigura lors de la signature de contrat. La multinationale aurait ainsi réalisé des profits de plus de 140 millions de dollars. Adria Budry-Carbo est enquêteur spécialiste des matières premières auprès de l'ONG Public Eye. Il dévoile ce que risque la multinationale avec ce procès.
Au niveau financier, ce n'est pas grand-chose. Hein. Dans ce type d'affaires, l'amende maximale, elle est de 5 millions de francs suisses. Peut-être encore moins si Trafigura arrive à prouver qu'ils ont intention de collaborer dans le cadre de cette affaire. Mais le dommage, il est réellement réputationnel. Pour Trafigura, ce n'est pas du tout bon de se retrouver comme ça dans une salle d'audience avec des juges qui vont se pencher sur la double comptabilité qu'ils avaient mis en place, sur les intermédiaires qui étaient chargés de verser des pots de vin, et puis aussi avec des accusations qui visent notamment l'ancien directeur de Trafigura, décédé en 2015. On sent que l'omerta dans le secteur est déjà en train de se fissurer, parce que donc, la famille de M. Claude Dauphin, décédé en 2015, a réagi très très fortement à l'évocation du nom de M. Dauphin dans l'acte d'accusation. Donc il considère qu'en fait M. Dauphin est jeté en pâture aux médias, et puis surtout il permet à Trafigura, en fait, à la direction actuelle, de se dédouaner en mettant toute la responsabilité sur une personne décédée.
Et le procès de Trafigura devrait durer 3 semaines. L'Allemagne annonce une nouvelle aide militaire à Kiev. Elle s'élève à 650 millions d'euros. Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé aujourd'hui en Ukraine pour montrer son soutien au pays face à l'invasion russe. Il a assuré que l'Allemagne restera le principal soutien de l'Ukraine en Europe. Olaf Scholz est actuellement en campagne pour sa réélection en vue des législatives du 23 février prochain.
RFJ, les 12h26.
Sport. En volleyball, une première partie de saison satisfaisante pour un VFM qui peut encore monter en puissance. L'équipe Fromont-Agnard pointe au 7e rang du championnat de Liga après le premier tour. Elle dispose d'une avance de 3 points sur la barre. Le volleyball Franche-Montagne, néo-promu dans l'élite, a gagné 4 rencontres et en a perdu 6 depuis le début de la saison. Son entraîneur Mélanie China tire un premier bilan du retour en Liga du VFM.
Je pense qu'on a fait un premier tour qui contenait des hauts et des bas. On a eu des moments avec des grands matchs contre des grosses équipes qu'on a réussi à prendre des points, même gagner. Et puis, on a eu un peu plus de la peine parfois contre les équipes qui se retrouvent autour de nous au niveau de classement. Mais je pense que c'est aussi un peu la logique d'une équipe qui vient d'arriver dans cette nouvelle ligue et puis qui doit prendre un peu ses repères.
Vous avez un groupe qui est très jeune, qui a été aussi passablement remanié ces dernières saisons. Comment s'est passée l'adaptation pour ces joueuses à la Liga ?
Je pense que ça se passe simplement par le jeu du dimanche. Il faut prendre l'expérience sur le terrain. On a beau à s'entraîner du lundi au samedi chez nous, mais c'est quand le dimanche on monte sur le terrain. C'est vraiment là qu'il faut prendre des expériences. Il faut faire ensuite une bonne analyse et comparer aux adversaires et voir où on est. Et ensuite, essayer d'une semaine à l'autre semaine de faire des adaptations et puis d'amélioration aux entraînements.
Des nouvelles joueuses avaient notamment rejoint le groupe aussi pour améliorer peut-être aussi l'effectif, amener un petit peu d'expérience. Comment est-ce que la mayonnaise a pris avec cette équipe sur ce début de championnat ?
On est très soudés. On a aussi on a un banc. C'est une concurrence très saine dans notre équipe qui fait que ça les pousse de progresser vraiment d'une semaine à l'autre.
Mélanie China était l'invitée de Loïc Georgi dans la matinale. Retrouvez son entretien complet sur rfj.ch. Enfin, en judo, les Jurassiens sortent du lot au championnat de Suisse. 4 judokas de la région ont ramené une médaille des joutes qui se sont tenues ce week-end à Yverdon. Lohan Chelik-Bilek et Jessica Gurba ont gagné le titre national dans leurs catégories respectives chez les élites. De leur côté, Bastien Beuchat chez les élites et Ludovic de Smet chez les moins de 21 ans ont ramené une médaille d'argent.